Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, l'hebdomadaire incontournable d'Occitanie. Et comme tous les vendredis, on va égrener avec elle les gros titres à paraître sur cette nouvelle édition. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence donc cette une de La Marseillaise, Françoise, avec le dossier qui cette semaine porte sur un événement historique, l'entrée au Panthéon, mercredi 21 février, de Missak et Mélinée Manouchian.
Mélinée Manouchian. Oui, tout à fait. Alors en fait, avec eux, ce sont les francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, ce qu'on a les FTP MOI,
oui,
qui sont reconnus par la République 80 ans après leur sacrifice et pour s'être battus contre les nazis et Vichy.
Oui.
Donc Missak Manouchian a été fusillé le 21 février 1944 au Mont-Valérien,
oui,
avec 21 de ses camarades pour avoir résisté et combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale au sein de ce qu'on appelait la résistance intérieure, mmh, et au sein de la résistance communiste. Ce qui est important aussi, c'est que c'est le premier étranger,
oui,
apatride, arménien, ouvrier et communiste qui rentre au Panthéon avec son épouse Mélinée, qui était aussi résistante, et avec eux, comme je le disais, tous les résistants communistes FPT MOI qui font leur entrée au Panthéon.
Mmh. À lire aussi dans cette nouvelle édition de La Marseillaise, l'invité du grand entretien qui est Sébastien Mourgues.
Oui.
Secrétaire général de la CGT des cheminots de Montpellier.
Oui, c'est important d'avoir cet entretien dans La Marseillaise, puisque vous savez que ce week-end, les contrôleurs de la SNCF sont,
oui,
suivis une grève, ont déposé un préavis de grève, ils vont faire grève, elle va être énormément suivie. Et à l'heure où le gouvernement et la droite LR notamment instrumentalisent cette grève,
oui,
des contrôleurs pour s'attaquer au droit de grève, il est assez éclairant et intéressant d'entendre la parole de ces travailleurs et d'un des représentants cheminots, en l'occurrence Sébastien Mourgues de la CGT.
À lire aussi les élections du CROUS à l'université de Montpellier et on a vu la victoire du syndicat de combat universitaire de Montpellier, le SCUM.
Oui, tout à fait. Alors c'est important parce que c'est la représentativité des étudiants au sein du conseil d'administration,
oui,
des CROUS qui,
oui,
en fait gère la vie étudiante. Et donc le SCUM, le syndicat de combat universitaire de Montpellier, a obtenu 4 des 7 sièges au conseil d'administration,
mmh,
ce qui va lui permettre de porter un peu plus la voix des étudiants. Ce n'est pas un résultat étonnant, même s'ils ont vraiment énormément progressé, parce que le SCUM mène des actions très concrètes, hein, contre la précarité étudiante. Et leur grand combat, ça va être de travailler sur la question du logement étudiant.
D'accord. Et pour finir, le supplément Culture Zébuline, l'hebdo-doc que l'on trouve chaque semaine dans La Marseillaise. Et il propose de découvrir la riche programmation des rencontres cinématographiques de Pézenas.
Oui, tout à fait. Alors, Zébuline l'hebdoc, je me permets de faire un bel éclairage sur ce supplément que nous avons toutes les semaines avec,
oui,
La Marseillaise de l'hebdo. 4 pages donc sur l'actualité culturelle, en plus des pages culture de l'hebdo La Marseillaise. Et donc, ils font un gros focus sur ces rencontres cinématographiques de Pézenas. C'est la 61e édition, ça fait plus d'un demi-siècle.
Ah oui.
Et cette année, il va y avoir un focus sur le cinéma coréen,
mmh,
avec l'année dernière, c'était l'Italie qui avait été mis à l'honneur, le cinéma italien. Cette année, c'est le cinéma coréen qui est extrêmement dynamique.
Oui, c'est riche.
Très, très riche. C'est pas dû au hasard. Ils ont une politique aussi de quotas qui fait qu'il y a une production cinématographique de qualité importante. C'est pour ça que le Zébuline l'hebdoc, il consacre une page complète.
Allez, chers auditeurs, à la une de La Marseillaise, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Verna.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et on commence donc, chère Françoise, cette une de la Marseillaise, comme on le disait en introduction, avec le dossier de cette semaine qui porte sur l'événement historique, l'entrée au Panthéon, mercredi 21 février, de Missak et Méliné Manouchian.
Oui, tout à fait. Donc ce mercredi prochain, c'est le héros de la Résistance, donc Missak Manouchian, son épouse Méliné, qui vont rentrer au Panthéon. C'est le temple laïque oui. de la République, hein, avec une inscription sur le fronton, c'est « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». On pourrait rajouter « Aux grands hommes et aux grandes femmes oui. », puisqu'il y a des femmes aussi qui sont au Panthéon. C'est un couple qui rentre au Panthéon, déjà ça c'est un événement, et c'est surtout des résistants communistes et étrangers qui ont combattu le nazisme au nom d'une certaine idée de la France, qui rentrent au Panthéon. Alors c'était les francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, ce qu'on appelle les FTP MOI. C'est une composante, c'est une organisation de la résistance communiste. Depuis 80 ans, il y a eu beaucoup de résistants qui sont rentrés au Panthéon, mais aucun communiste. Et c'était, c'était une ostracisation de oui. l'histoire. Et donc, justice est rendue à cette résistance, à cette composante importante de la résistance, et aux immigrés qui ont combattu contre les nazis et dont faisait partie Missak Manouchian, dont la vie, témoigne des grandes tragédies du XXe siècle, puisqu'il est arménien, il est orphelin après le génocide, ouais. et il va arriver en France à 18 ans, 1924, parce que la France, à cette époque-là, a besoin de main-d'œuvre. Ouais. La France, dont il a une image extrêmement idéalisée, puisqu'il est passionné et amoureux de ce pays, le pays des droits de l'homme, pour lui, c'est un poète aussi. D'accord. Il va donc connaître dans les années 20, les années 30, la dure vie, on va dire, des immigrés. Hein. On va lui refuser par deux fois la naturalisation française. Ça ne va pas l'empêcher de s'engager dans l'armée en 1939. Et après la capitulation de Pétain, de rentrer dans la résistance au sein des FTP MOI. Donc il était un des responsables militaires des FTP MOI. Ils ont mené des actions retentissantes. Hein. Ils ont notamment éliminé le général SS qui déportait les travailleurs français dans le cadre du STO. Ils vont être traqués, ils vont être arrêtés, torturés et fusillés le 21 février 1944 au Mont-Valérien. Ils sont 22 à tomber, 23 au total, puisque la seule femme du groupe, elle, sera décapitée en Allemagne en mai 1944. Ouais. Dans ce dossier, nous avons l'interview de Robert Guédiguian, le cinéaste, qui est aussi d'origine arménienne et allemande, et donc qui nous fait part un peu de ce que ça représente pour lui, cette entrée au Panthéon. Et nous avons donner toutes les dates pratiques sur les cérémonies qui vont avoir lieu et les débats aussi, hein, qu'on peut retrouver dans la Marseillaise, toutes ces dates importantes, hein, d'hommage aux résistants de ce qu'on a appelé l'affiche rouge. Et on reproduit la dernière lettre de Missak Manouchian à sa femme Méliné. C'est une lettre qui a inspiré le poète Louis Aragon, qui va donc écrire strophe pour se souvenir. Et ce poème, quand il va être mis en musique par Léo Ferré sous le titre L'affiche rouge, va populariser la résistance intérieure. Et ça reste une chanson aussi extrêmement emblématique de la résistance de ces étrangers. Évidemment, on peut faire le lien, c'est pas parce que Missak Manouchian entre au Panthéon que ça va absoudre le président de la République qui donc a décidé de le faire entrer au Panthéon, de la politique qu'il est en train de mener, notamment vis-à-vis des étrangers. Mais cela dit, comme nous invite à le faire Robert Guédiguian, quand une lumière s'éclaire, il faut la regarder. Et il faut aussi se mobiliser contre des politiques que nous, on n'apprécie pas. Mmh. Et c'est vrai qu'à l'heure où le poison fasciste et les idées racistes de l'extrême droite infusent, cette vie de Missak Manoukian qui va être mise en lumière, elle revêt vraiment une dimension exemplaire. Mmh. Et elle nous montre notre chemin. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce dossier de la Marseillaise de la semaine.
Mmh. En tout cas, un dossier à ne vraiment pas à louper. Le grand invité, l'invité oui. du grand entretien, pardon, qui est Sébastien Mourgue, secrétaire général de la CGT des cheminots de Montpellier, c'est aussi à lire dans cette nouvelle édition de la Marseillaise.
Oui, alors c'est important de donner la parole nous on donne la parole souvent à ceux qui ne sont pas toujours mis en avant dans les médias ou alors de façon négative, à savoir notamment les représentants des cheminots. Mmh. On sait que ce week-end, il y a une mobilisation importante, une grève importante des contrôleurs. Sans les contrôleurs, les trains ne partent pas, n'arrivent oui. pas et on ne peut pas donc assurer la sécurité. Donc leur rôle, il est déterminant. Ils se mobilisent pour leurs conditions de travail. De travail et leur salaire. Sébastien Mourgue nous rappelle dans les colonnes, dans son compte entretien, que les cheminots, à l'instar de beaucoup de salariés, accusent une perte de salaire importante ces 10 et 12 dernières années, de l'ordre de 25%. Oui. Donc on les fait passer, comme d'habitude, c'est le gouvernement oui. et la droite notamment, et l'extrême droite, pour des privilégiés entre guillemets. Les privilégiés, il ne faut pas les chercher du côté de la SNCF et des travailleurs de la SNCF qui, eux, se battent aussi pour que le service public soit remis sur ses jambes. Sur ses rails, en l'occurrence, sur ses rails. Sébastien Mourgue nous rappelle que depuis une vingtaine d'années, depuis les années 2000, la CGT a dénombré 2000 emplois supprimés sur le périmètre à l'époque de ce qu'on appelait le Languedoc-Roussillon, oui. Qui n'est plus une région, mais qui est toujours un territoire. Mmh. Donc c'est quand même énorme, il y a une baisse drastique des effectifs. Et surtout, c'est un métier qui est de moins en moins attractif, puisqu'il y a énormément de démissions. Oui. On démissionne pourquoi ? Parce que les conditions de travail sont difficiles, parce qu'il y a eu la casse du statut, oui. parce que la réforme des retraites avec 2 ans fermes supplémentaires qui touchent tout le monde, et y compris les cheminots. Et c'est important aussi de donner la parole à Sébastien Mourgue, parce qu'on voit qu'il y a une instrumentalisation aujourd'hui de la grève des contrôleurs de la oui. SNCF pour s'attaquer à un droit constitutionnel qui est le droit de grève. On a même entendu un sénateur, hein, il n'est pas de l'Hérault, il est des Bouches-du-Rhône, qui demande d'encadrer, enfin pas d'encadrer, hein, c'est pas ça, de réduire, voire d'interdire la grève pendant les vacances, congés, oui. en nous disant textuellement que depuis 1947, il faut arrêter avec ces prises d'otages. Mmh. Donc c'est des références historiques. 47, c'était des grandes mobilisations.
Oui, on pourrait citer 68 aussi.
Oui, pas simplement chez les cheminots, c'était des grèves très dures. Elles avaient été provoquées par quoi ? Eh bien, je vous le donne en mille, par la cherté de la vie, l'inflation et des conditions de travail extrêmement difficiles. Mmh.
Et puis, on pourrait rajouter à ça, chère Françoise, ce qu'a dit Éric Ciotti en disant que, je crois, depuis 1947, il n'y a pas eu une seule année sans grève de la SNCF. Mais bon, c'est à remettre dans le contexte. Et puis, il faut rappeler aussi peut-être que la SNCF n'a pas voulu répondre aux sollicitations de négociation des cheminots, et que la SNCF va dégager beaucoup de bénéfices, visiblement.
Exactement, c'est-à-dire ce que nous rappelle d'ailleurs Sébastien Mourgue dans cet entretien, 2,2 milliards d'euros de bénéfices en 2022, mmh. et en 2023, on n'a pas encore les chiffres, mais ça sera pareil. Tout à fait, c'est des... En fait, pour être précis, oui, c'est depuis 2022, il y a eu un accord, cet accord n'est pas appliqué, mmh. et donc la grève, c'est un moyen d'action, les gens perdent du salaire quand ils font grève. Ciotti dit que depuis 1947, il n'y a pas eu une année sans grève. La grève est un droit fondamental inscrit dans la Constitution pour faire valoir ses droits et la dignité au travail. Mmh.
Affaire à suivre. La Marseillaise revient aussi sur les élections du CROUS à l'Université de Montpellier, qui sont historiques, puisque la victoire du SCUM, le syndicat de combat universitaire de Montpellier, obtient 4 des 7 sièges au conseil d'administration.
Oui, tout à fait. Donc, c'était partout, dans tous les CROUS, dans toutes les universités de France. Il y a eu des élections début février, on a eu les résultats. Et donc, c'est les étudiants qui, c'est important, ils élisent leurs représentants au sein des conseils d'administration qui décident de la vie et des moyens donnés pour améliorer la vie des étudiants. On sait que les étudiants sont en grande difficulté, en grande difficulté matérielle, parfois psychologique aussi, parce que ça a des impacts sur la santé des étudiants. Mmh. Et on a à Montpellier un syndicat de combat universitaire, le SCUM, qui depuis longtemps agit en faveur donc du droit à avoir des repas pas chers, notamment ils militent pour le retour au repas à 1 euro. Oui. Ils ont organisé pendant la pandémie et ils continuent à le faire des distributions alimentaires parce qu'un étudiant sur deux en France ne se nourrit pas, ne peut pas se nourrir correctement, ce qui est quand même gravissime. Oui. Et là donc les actions paient, puisque les étudiants de Montpellier ont accordé leur confiance au SCUM pour porter leurs revendications, pour les représenter. Ils ont eu 2000 voix supplémentaires par rapport aux précédentes élections.
Oui,
c'est quand même énorme, c'est beaucoup. Et là, ils font beaucoup d'actions contre la précarité. Et cette année, là, ils vont vraiment s'emparer encore plus de la question du logement. Il y a une crise majeure. Ils ont déjà alerté en début d'année parce que le logement étudiant, il faut construire des logements, on va dire, pour tout le monde. Oui. Et il faut construire des logements pour les étudiants parce que quand on voit les prix des loyers, le manque de places en cité universitaire et les prix des loyers qui explosent, beaucoup de jeunes renoncent, y compris à des études, parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Oui. Donc le SCUM a obtenu, pour être précis, 36,7% des suffrages, donc ils étaient largement majoritaires, et comme vous l'avez dit, 4 sièges sur les 7 au conseil d'administration. Et donc on va continuer à suivre l'action de ce syndicat à l'université de Montpellier.
Allez, pour finir, de la culture avec le supplément culture Zébuline, l'hebdo doc que l'on retrouve chaque semaine dans la Marseillaise. Il vous propose de découvrir la riche programmation des rencontres cinématographiques de Pézenas. Et cette année, le focus est mis sur la Corée.
Oui, tout à fait. L'année dernière, ce grand festival, c'est l'édition des rencontres cinématographiques de Pézenas. Alors, c'est organisé à partir de ce vendredi jusqu'au 22 février et c'est porté par la Fédération des Ciné-Clubs de la Méditerranée.
Ouais.
Ça fait plus d'un demi-siècle que ce rendez-vous culturel existe. L'année dernière, l'Italie a été mise à l'honneur et cette année, ce sont les cinéastes coréens qui sont extrêmement prolixes. Ils font un cinéma très très contemporain, en prise avec les grandes questions évidemment de la Corée, c'est un pays coupé en deux. Sur les 26 films, il y en a un seul qui vient de Corée du Nord. C'est surtout la Corée du Sud qui est représentée. On peut comprendre pourquoi.
Généralement, en Corée du Nord, c'est de la propagande, des films de propagande.
Ce film-là, il est présenté comme étant un mélodrame déchirant qui date de 1972.
Oui.
Il s'appelle La fille aux fleurs. Il y a beaucoup d'autres cinéastes, bien évidemment, qui sont mis à l'honneur. Ça commence dès aujourd'hui avec JSA de Park Chan-wook. On donne le large détail des cinéastes et des films qui vont être projetés. Il y a aussi des rencontres pour, on va dire, penser le cinéma.
Oui.
C'est le 21 février. Et là, on va avoir des débats pour réfléchir aux actions, notamment de la région, pour défendre le rayonnement du cinéma d'auteur. Et à ce titre, je renvoie aussi aux pages culture qui sont pas Zébuline, qui est notre supplément culture, mais qui sont les pages qu'on retrouve dans l'hebdo.
Oui.
Nous avons un entretien très intéressant avec un jeune cinéaste, Jean-Baptiste Durand, qui est l'auteur de Chien de la casse.
Ah oui.
Alors c'est un film formidable qui est nominé dans cette catégorie pour les Césars. Et ça raconte le quotidien des jeunes, on va dire, dans les villages de l'Hérault. C'était l'histoire d'amitié. C'est un film vraiment avec une véritable écriture cinématographique. C'est un premier film d'un jeune réalisateur qui est né en 1985 et donc que l'on a en entretien dans les pages culture de l'Hebdo. On a beaucoup d'actualités culturelles cette semaine, comme d'habitude, avec Zébulie de l'Hebdoc et avec les pages culture de l'Hebdo.
Eh bien, chers auditeurs, il ne vous reste plus qu'à vous diriger vers votre bon libraire, buraliste, tout ce que vous voulez, et vous procurer cette nouvelle édition de La Marseillaise avec en plus l'hebdoc Zébuline et plein d'autres choses encore à lire sur le www.lamarseillaise.fr. Merci, chère Françoise.
Merci à vous. À très bientôt.
À la semaine prochaine.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Verna. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.